Alors, qui peut prétendre connaître la vérité? Ça, c'est une idée intimidante, parce que quand on prétend connaître la vérité, on prétend en même temps que ceux qui croient quelque chose de contraire à ce qu'on croit, eh ben, sont dans l'erreur. On prétend qu'ils se trompent, n'est-ce pas? Et de nos jours, dire qu'on connaît la vérité, particulièrement dans le domaine religieux, c'est un discours qualifié d'arrogant, de présomptueux, d'intolérant, voire parfois de totalitaire. Alors, l'attitude qui prédomine aujourd'hui vis-à-vis de cette idée, de ce concept de la vérité, pourrait peut-être être résumée par ce leitmotiv de la série télévisée X-Files, qui était très populaire il y a quelques années. La vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. Elle est toujours ailleurs. Autrement dit, la vérité est généralement inaccessible, incompréhensible, elle nous dépasse totalement. Ou alors, c'est l'idée que la vérité serait quelque chose de simplement intérieur, subjectif et relatif, ce qui revient à dire finalement qu'il n'y aurait pas de vérité. Quoi qu'il en soit, de nos jours, il faut tenir ses convictions, si tant est que l'on en a des convictions, il faut les tenir en toute modestie, en toute discrétion, voire même en s'excusant d'avoir la naïveté de croire que ce qu'on croit est vrai. Et qu'on a raison. Et comment cette mentalité influence-t-elle votre perception de la foi chrétienne? Comment cette mentalité qui prédomine aujourd'hui concernant le concept de la vérité, comment cette mentalité-là conditionne-t-elle ou influence-t-elle votre perception de la foi chrétienne? Que vous soyez croyant ou non ce soir, je vous pose la question. Et je me demande si vous faites partie des gens qui pensent que la foi chrétienne c'est quelque chose de mystérieux au sens de paranormal. Vous savez, c'est paranormal, c'est bizarre, c'est extraterrestre. Peut-être que vous faites partie des gens qui estiment que les convictions qu'on peut avoir dans ce domaine sont essentiellement invérifiables et subjectives, et parce que la vérité, au fond, est inaccessible. C'est peut-être votre point de vue ce soir. Vous pensez aux chrétiens, ou peut-être que vous pensez à votre propre foi, si vous êtes chrétien, et vous imaginez dans votre esprit le fils de Wang Jianghe qui dit à Tintin dans le Lotus Bleu, Lao Tzu l'a dit, il faut trouver la voie. Moi, je l'ai trouvée, il faut donc que vous la trouviez aussi. Je vais d'abord vous couper la tête, ensuite, vous trouverez la vérité. Si vous ne vous souvenez pas de cet épisode dans le Lotus Bleu de Tintin, je vous encourage à l'emprunter à la bibliothèque. Alors, la vérité est-elle vraiment ailleurs? Nous dépasse-t-elle complètement? Se trouve-t-elle dans un monde spirituel supérieur, radicalement séparé du monde matériel dans lequel nous vivons et par lequel nous sommes limités? Et si c'est vrai, par conséquent, quel poids peut-on accorder aux affirmations du christianisme? À l'époque où Paul écrit cette lettre à Timothée, il y avait des gens qui se disaient chrétiens, d'accord, et qui en même temps croyaient effectivement et enseignaient à d'autres que la vérité était terriblement difficile à connaître. Et que pour la connaître, il fallait nécessairement être initié à certaines connaissances spirituelles secrètes. Pour ces gens-là, le monde spirituel, siège de Dieu et de la vérité, était totalement distinct et séparé du monde matériel, siège du mal et de l'illusion. Mais Paul, dans cette lettre notamment, va s'opposer à cette idée, va s'opposer radicalement à cette idée-là, comme d'ailleurs comme le fait la Bible tout entière. Et il veut faire comprendre à tous ceux qui lisent cette lettre, alors à Timothée bien sûr, mais par l'intermédiaire, par le biais de cette lettre, il veut faire comprendre à tous ceux qui vont la lire, comme nous ce soir, que la vérité en fait n'est pas un secret. La vérité n'est pas un secret, elle est un secret pour personne. La vérité en fait, pour Paul en tout cas, et pour la Bible, la vérité est notoire, parce qu'elle a été révélée de façon évidente, compréhensible, objective, fiable et suffisante. Par conséquent, il nous incombe non seulement de croire hardiment à la vérité, mais aussi de la proclamer sans détour. Alors on va lire le texte. C'est donc à la fin du chapitre 3 de la première épître de Paul à Timothée. On va lire que 3 versets. Je vous avais dit au début que ce texte était très dense, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire, donc c'est pour ça qu'on l'étudie en petits morceaux parfois. 3 versets pour ce soir, les versets 14, 15 et 16 du 3e chapitre. C'est donc Paul qui écrit à Timothée. « Je t'écris ceci, avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Voilà pour la lecture, je vous invite à prier. Merci notre Dieu pour ta parole qui a tant à nous apprendre, et s'il te plaît maintenant par l'action spéciale de ton Saint-Esprit, s'il te plaît, instruis-nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. La vérité n'est pas un secret, tout d'abord, parce qu'elle a été révélée dans les Saintes Écritures. Je voudrais vous faire remarquer la façon dont Paul assume sans complexe son autorité en tant qu'apôtre au début de ce passage. « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi pour t'expliquer les choses un peu plus clairement. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire, pas dans ta salle de bain ou dans ta chambre, mais dans la maison de Dieu. » C'est très clair pour Paul. « Je t'écris ceci, tu sauras ainsi comment. » Pourquoi est-ce que Paul peut dire ça avec autant d'assurance? Parce que c'est précisément le travail auquel Dieu l'a destiné en tant qu'apôtre. Je ne sais pas depuis combien de temps ce verre d'eau est là, mais bon, ni combien de personnes différentes ont bu dedans, mais bon. Rappelez-vous que Jésus, quand il s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas, il a un peu plus tard dit à Ananias que Paul serait pour lui un instrument de choix. Il le destinait à être apôtre, et le travail que Dieu destine aux apôtres, que Dieu a destiné aux apôtres, a consisté notamment à non seulement créer les églises du premier siècle, les premières églises chrétiennes, mais aussi leur travail consistait à livrer à ces premiers chrétiens et à ces premières églises des enseignements inspirés de Dieu qui constituent ces enseignements, ils constituent aujourd'hui notre Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous a été livré sous le couvert de l'autorité des apôtres du premier siècle, des apôtres qui ont connu Jésus personnellement. Mais voici ce que Jésus a dit aux apôtres concernant leur mission, d'accord? Il leur a dit, pendant qu'il était encore avec eux, il leur a dit, « Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean chapitre 16, verset 13, et je vous réfère à la prédication de Jonathan sur ce passage, si vous voulez en savoir davantage à ce sujet. Mais Jésus ne peut pas être plus clair que ça concernant ce qui allait se réaliser sous l'effet du Saint-Esprit à travers ses apôtres. Hein. L'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu a effectivement, parce que Jésus a dit que ça se produirait, Jésus ne se trompe pas, hein, vous savez, il a dit que ça se produirait, ça s'est produit, l'Esprit a été donné aux apôtres et les a conduits dans toute la vérité. Et voici le fruit de leur travail, le Nouveau Testament. Et voilà ce qui explique l'assurance ou l'audace presque de Paul qui dit « Je t'écris ceci ». Tu sauras ainsi comment on doit se comporter, se conduire dans la maison de Dieu. Merci pour ce verre d'eau. Ce qui me paraît incroyable, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, y compris des croyants, puissent accorder plus de crédibilité et de poids à toutes sortes de sources d'informations plutôt qu'à la Bible. Pour moi, ça me paraît incroyable. Un sondage réalisé l'année dernière révèle que seulement 37% de Français possèdent une Bible chez eux. C'est un peu plus d'un tiers. Et même que ce pourcentage est en recul. Il y a moins en moins de personnes en France qui possèdent une Bible chez eux. Le sondage montre aussi que 80% des moins de 25 ans ne lisent jamais la Bible. C'est pas une fois de temps en temps, c'est jamais. 80%, et ce pourcentage est en augmentation. Ça ne veut pas dire que tous ces gens ont renoncé à donner un sens à leur vie. Ils donnent un sens à leur vie, mais en se basant sur d'autres informations, des informations beaucoup moins fiables que la Bible. C'est comme si vous deviez préparer une thèse de doctorat intitulée « Ma raison d'être », signée Jeanne Fruttuoso, ma raison d'être, une grosse thèse, vous savez, et que vous alliez à la bibliothèque universitaire pour trouver quelques ouvrages de référence sur ce sujet, et puis vous passez dans la section des bouquins d'anthropologie, d'accord, et puis là, au milieu du rayon, vous voyez un énorme bouquin, peut-être pas aussi épais, mais comme ça, très ancien, d'accord, très épais, et qui porte le titre suivant, « Tout sur la raison d'être des êtres humains ». Et que vous décidiez, délibérément, de ne pas le consulter, ni de l'inclure dans votre bibliographie. Absurde, non ? Incompréhensible. Ce comportement, pourtant, c'est celui des gens qui pensent pouvoir se passer de la Bible dans leur vie. C'est absurde. Ils fondent leur vie sur d'autres sources d'informations beaucoup moins fiables, alors que la Bible surpasse dans tous les domaines tous les autres documents que l'humanité a jamais eus en sa possession. D'un point de vue purement objectif, la Bible est supérieure de par sa distribution, de par sa conservation, son influence, sa cohérence interne et son contenu. Et si vous lisez la Bible, vous découvrirez qu'elle prétend elle-même avoir non seulement une portée universelle, mais aussi qu'elle transmet des paroles de Dieu lui-même et qu'elle prétend être même utile et efficace pour votre vie personnelle. Donc, quelle absurdité serait-ce de ne pas au moins consulter ce livre, de ne pas au moins le consulter, au moins le lire une fois dans sa vie. Quelle absurdité. La vérité n'est pas un secret donc parce que, premièrement, elle a été révélée dans les Saintes Écritures. Et ces Saintes Écritures ont été diffusées aujourd'hui en des milliards d'exemplaires. Elles ont été traduites au moins en partie en plus de 2500 langues. Et elle a été par conséquent rendue accessible à plus de 95% de la population du monde. Pas besoin d'avoir la tête coupée pour connaître la vérité, pour trouver la voie. Pourquoi ne pas plutôt dépenser quelques euros dans une librairie? Ça paraît quand même plus raisonnable, non? Et regardons la suite du texte. La vérité n'est pas un secret. Deuxièmement, parce qu'elle a été confiée à l'Église chrétienne. Et ici, Paul utilise des termes très forts, très très forts, pour décrire l'Église. La maison de Dieu, dit-il, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ce que Paul n'est pas en train de dire ici, ce qu'il n'est pas en train de dire, c'est que l'Église, en tant qu'institution, aurait le pouvoir de définir ou de décréter la vérité. Ça, ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, en revanche, c'est que la vérité, qui existe indépendamment de l'Église, a néanmoins été communiquée par Dieu et confiée à l'Église en tant que peuple de Dieu. Et il s'agit, vous vous souvenez de ce passage où Paul parle d'un trésor qui a été déposé dans des vases de terre. Il s'agit de ce trésor-là que Dieu a confié à l'Église. Paul est donc en train d'insister sur deux choses ici, hein, verset 15, la deuxième partie du verset 15. Tout d'abord sur l'honneur de l'Église, et d'autre part sur la responsabilité de l'Église. L'honneur de l'Église parce que l'Église en tant que communauté, c'est la famille de Dieu, dépositaire du message de Dieu lui-même. Et la responsabilité de l'Église d'autre part parce que l'Église est tout spécialement habilitée à soutenir, à préserver et à proclamer la vérité. La métaphore que Paul utilise ici, c'est une métaphore architecturale, hein. La colonne est l'appui de la vérité. Il faut savoir que les colonnes occupent une place très importante dans l'architecture, hein, à l'époque où Paul écrit ces mots. Et particulièrement pour les gens qui habitent dans la ville de Timothée, qui est Éphèse. C'est à Éphèse qu'il y avait ce temple dédié à Artémis, une déesse grecque. Et il y avait un architecte romain du nom de Vitruve, au 1er siècle, qui considérait que ce temple à Éphèse était une des plus belles réalisations architecturales de l'époque. Et d'ailleurs, le temple d'Artémis figure parmi les sept merveilles du monde. Ce temple-là, donc, c'était aussi familier pour les lecteurs de cette épître à l'époque que la tour de la Part-Dieu pour nous aujourd'hui, d'accord ? Ce temple-là avait 127 colonnes. 127, chacune faisait 18 mètres de haut, et elle supportait un gigantesque portique qui lui-même abritait une statue d'Artémis et une statue de Zeus. Donc vous voyez, une colonne pour ces gens-là, ça voulait dire quelque chose. Et Paul, lui, il dit, l'Église c'est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire qu'il la place où la vérité ? Tout en haut de la colonne, là où il y a le portique, là où tout le monde peut voir. Il la place, la vérité, au vu et au su de tout le monde. C'est comme si je vous disais, moi, la vérité est en haut de la tour de la Part-Dieu. Vous savez, là où il y a le panneau pour l'hôtel, je ne sais plus quoi, là, Radisson. Ben, je vous dis, là, c'est la vérité. L'Église, c'est ce qui soutient la vérité, qui est tout en haut, que tout le monde peut voir. C'est pas caché, c'est pas secret. Aujourd'hui, au lieu de colonne ou d'appui, on pourrait peut-être parler de mur porteur, ou de pilier, ou d'étai, ou de contrefort, ou d'épaulement, ou de bâtisse, ou d'ossature. Ce sont des termes peut-être plus courants dans l'architecture aujourd'hui. Paul est en train de dire que l'Église, c'est une structure porteuse aux proportions pour nous d'un grand immeuble, et la charge qui est portée par cette structure, qui est soutenue par cette structure, tout en haut, au vu et au su de tous, c'est la vérité. Et comment, maintenant pour sortir de la métaphore, comment concrètement est-ce que l'Église soutient, préserve et proclame cette vérité ? Eh bien tout simplement à travers la diffusion du message de la Bible, à travers la diffusion de ce message que nous considérons comme étant la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que la prédication est censée occuper une place si importante dans le culte. Parce que la prédication, si elle est fidèle à la Bible, c'est la proclamation publique de la vérité. C'est pas rien ça. Quel drame lorsque le mur porteur ne porte plus. Quel drame lorsque l'Église arrête de parler ou parle pour dire des faussetés, et que la vérité n'est plus maintenue en hauteur, mais qu'elle s'effondre à terre. Quel drame quand ça arrive ! Et c'est arrivé plus fréquemment qu'on le croit dans l'histoire, et encore aujourd'hui. Voici ce que dit Calvin. Il parle des pasteurs, là. Quelle horrible vengeance les pasteurs doivent-ils attendre ? Si par leur faute, ils laissent déchoir cette vérité qui est l'image de la divine gloire, la lumière du monde et le salut des hommes. Cette seule considération, dit-il, devrait faire trembler continuellement les pasteurs, non pas pour les rendre perdus, mais pour les aiguiser à être plus vigilants. La vérité n'est pas un secret donc, deuxièmement, parce que elle a été confiée à l'Église chrétienne qui est chargée de la proclamer, de la tenir en hauteur, au vu et au su de tous. Pasteurs ou pas, nous avons deux choses à surveiller, mes amis. Nous tous, nous sommes concernés. Et ces deux choses que nous devons surveiller, ce sont nos attentes vis-à-vis de l'Église, du coup, et notre vigilance vis-à-vis du message qui est proclamé par l'Église. Comment ces choses-là seraient-elles différentes dans notre vie, dans votre vie, si par exemple on changeait le panneau de notre église et qu'au lieu d'y mettre Église réformée évangélique de Lyon, d'accord, on y mettait Maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Culte le dimanche à 17h. Est-ce qu'on ne viendrait pas au culte avec une émotion quelque peu différente quand même ? Est-ce qu'on ne serait pas un peu plus attentif au message qu'on va y entendre quand même ? Je ne sais pas. Mais regardons la suite et la fin du texte. La vérité n'est pas un secret, troisièmement et dernièrement, parce que la vérité a été manifestée en personne à travers la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors ça, c'est un verset qui a fait couler pas mal d'encre. Mais pour bien comprendre ce qui se passe ici, c'est le verset 16. Je vous rappelle ce qu'on a dit en introduction. Au moment où Paul écrit ces lignes, il y a des gens dans l'église de Timothée, dans l'église d'Éphèse, d'accord, il y a des gens qui pensent que la vérité n'est accessible que très difficilement, en étant initié à certaines connaissances spirituelles secrètes. Pour cette époque-là, il s'agit d'une forme d'ésotérisme, vous voyez ? Ces gens-là parlaient beaucoup de ce qu'ils appelaient, dans leur vocabulaire, des mystères. Des mystères. C'est-à-dire pour eux des connaissances cachées, secrètes, réservées aux initiés, vous voyez. Mais ce sens du mot mystère, qui est peut-être proche du sens que nous on lui accorde aujourd'hui, je ne sais pas, mais ce sens du mot mystère, en tout cas, n'est pas le sens biblique du mot. Dans le Nouveau Testament, un mystère, c'est quelque chose qui était autrefois caché, mais qui maintenant est révélé. C'était autrefois caché, mais maintenant c'est révélé. Un mystère, si vous voulez, c'est quelque chose qui était voilé, mais qui est dévoilé. Qui était voilé, mais qui est dévoilé maintenant. Donc quand vous voyez le mot mystère dans la Bible, il ne faut pas penser aux émissions télé du genre les 30 histoires les plus mystérieuses, vous savez, ce genre d'émissions qui passent de temps en temps sur les chaînes les plus importantes de notre télévision. Ces émissions qui racontent des histoires, vous savez, de fantômes ou d'extraterrestres. Il ne faut pas penser à ça, à ce genre de mystère. Non, dans la Bible, il ne s'agit pas de ce genre-là de mystère. Il s'agit plutôt de quelque chose qui autrefois n'était pas clair, mais maintenant qui est devenu clair. Et là, Paul veut réfuter l'obsession que ces gens-là, de cette époque-là, avaient pour l'idée du secret, de l'initiation, de la vérité qui est ailleurs, comme dans X-Files, etc. Il veut corriger la définition, tout simplement, que ces gens avaient du mot mystère. Certes, dit-il, il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Et ensuite, Paul va montrer qu'en fait, il n'y a pas de mystère au mystère. Le mystère ne fait pas de mystère. D'accord ? Et il va citer ensuite ce qui était probablement un cantique dans l'église primitive. On n'est pas sûr, hein ? Mais il semblerait que c'était probablement un cantique ou un poème, du moins, qui circulait dans l'église primitive, un texte qui parle de la personne et de l'œuvre de Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les verbes employés dans ces quelques vers de ce poème, tous les verbes employés concernent l'idée d'une connaissance qui a été très clairement transmise. Regardez avec moi le texte. Celui qui a été manifesté en chair, justifié, c'est-à-dire déclaré juste en esprit, apparu aux anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé, hein, comme cette vérité en haut de la colonne, hein, élevé dans la gloire. Et ensuite, on a les compléments circonstanciels. Donc, si vous avez fait un peu de grammaire ou un bac L comme moi, vous savez ce que c'est. Les compléments circonstanciels, c'est ce qui vient après les verbes. Et quant à eux, ces compléments circonstanciels, ils vont évoquer par groupe de deux, donc trois groupes de deux, des espèces d'extrémités opposées, dans le but de montrer le caractère global de cette connaissance qui a été très clairement transmise. Vous avez remarqué ? Premier couple, première paire, en chair, en esprit. Deuxième, aux anges, aux nations, ce qui signifie les païens, les non-juifs. Et puis troisième paire, dans le monde et dans la gloire. Vous voyez l'ironie de Paul ici, il est en train de dire, de façon très ironique, ouais, la foi chrétienne, ouais, c'est un mystère en effet, hein. Il s'agit de quelqu'un qui se fait parfaitement connaître à nous et dont l'histoire est racontée à tout le monde de partout. Ouais, vous voyez, un mystère, un grand mystère, hein. C'est un peu que si moi je vous disais, par exemple, ce soir, sous forme d'ironie, ouais, l'engagement chrétien, ça change pas grand-chose à la vie, en effet, hein. Comme on l'a chanté, hein. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Vous voyez l'ironie? Vous comprenez l'ironie? C'est un peu comme s'il ajoutait mon œil pour réfuter l'idée de ces gens. Dans le film Bruce Tout-Puissant, avec Jim Carrey, il y a une scène où le héros est en plein désarroi, d'accord, et il part en voiture. Et il se met à prier. Et il dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Donne-moi un signe. Et puis, là, il passe devant un panneau sur le bord de la route qui dit, attention, danger. D'accord? Mais il continue sa route en ignorant le panneau et en priant de plus belle. Oh Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie, envoie-moi un signe. Et là, il y a un gros camion qui lui passe devant, rempli de panneaux de signalisation, d'accord, qui débordent de son chargement, et où c'est des stops, c'est des panneaux d'impasse, c'est des sens uniques, etc., enfin sens interdit plutôt. Mais le héros, là, de l'histoire, plutôt que de remarquer ce qui est écrit sur tous ces panneaux, il est agacé par ce camion qui lui gêne la route et puis il décide de le dépasser. Puis en le dépassant, il crie au conducteur « Ouvre les yeux, idiot !» Et puis à la fin de la scène, évidemment, ça se termine par un accident parce qu'il n'a pas fait attention aux signes que Dieu lui envoyait. Mais cette scène est assez comique, mais en même temps, elle reflète une attitude malheureusement assez courante, en fait. Ça fait des millénaires maintenant que Dieu se fait connaître aux hommes par le moyen de révélations particulières qui ont été consignées au fur et à mesure de l'histoire dans la Bible, le document le plus précieux que l'humanité possède. Et dans ces textes, Dieu fait comprendre à l'homme qu'il se dirige droit vers la perdition à cause de son désir d'autonomie et du fait qu'il a tourné le dos à Dieu. Et finalement, dans l'histoire, Dieu se fait connaître non plus par des paroles, mais en personne, par Jésus, qui, vous voyez, il vient du ciel, il revêt une chair mortelle, manifestée en chair, n'est-ce pas, et qui habite pendant un temps au plus près des hommes. Jésus, vous voyez, il a eu un ministère public, au vu et au su de tous. Il a enseigné en public, il a accompli des miracles en public, il a souffert en public, et il est mort en public. Il était le seul homme à avoir vécu dans l'obéissance parfaite à Dieu. Mais il est mort pour les autres. Pour tous ceux qui, bien que coupables, placent leur confiance en lui et reçoivent ainsi le pardon de leurs fautes. Vous voyez, Dieu ensuite a ressuscité Jésus, comme le dit l'apôtre Pierre, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, par la mort. Et Dieu a ainsi, en ressuscitant Jésus, il a déclaré solennellement que Jésus était juste et que Dieu a agréé le sacrifice parfait et suffisant offert par Jésus. C'est ça que Paul veut dire quand il dit qu'il a été justifié en esprit. Et une fois ressuscité, Jésus n'est pas apparu qu'aux hommes. Rappelez-vous que les premiers à avoir vu Jésus, c'était des anges. Il est apparu non seulement aux hommes, mais aussi aux anges. Et la bonne nouvelle du pardon des péchés et du don de la vie éternelle qui sont offerts à tous ceux qui se repentent et qui croient au nom de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle a été proclamée de par le monde depuis au moins 20 siècles. Et des gens de tout pays, de tout âge, de toute culture, lui ont remis leur vie. Et vous voyez, malgré le témoignage de l'Écriture, malgré le témoignage de l'Église chrétienne, malgré le témoignage de l'histoire pendant 2 millénaires, les gens continuent de dire aujourd'hui « Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas être ça. C'est forcément plus compliqué que ça. La vérité est forcément ailleurs. C'est pas possible. On peut pas être aussi catégorique. On peut pas savoir pour sûr. Etc. Etc. » Comme notre héros dans Bruce Tout-Puissant, qui hausse les épaules, qui ignore complètement les messages que Dieu lui adresse. La vérité, pourtant, n'est pas un secret, parce que non seulement elle a été révélée dans les Saintes Écritures, c'est notre premier point, non seulement elle a été confiée à l'Église chrétienne, c'est notre deuxième point, mais surtout, la vérité a été manifestée en personne, dans l'histoire, à travers la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, que par moi. Ça fait 2000 ans que cette affirmation-là est proclamée au monde, à travers le document le plus précieux et le plus fiable que l'humanité ait en sa possession. N'attendez pas l'accident pour recevoir le message que Dieu vous adresse. Alors la vérité est-elle vraiment ailleurs? Nous dépasse-t-elle complètement? Se trouve-t-elle dans un monde spirituel supérieur, radicalement séparé du monde matériel dans lequel nous vivons et par lequel nous sommes limités? Question? Réponse, pas du tout, pas du tout. Dieu nous fait connaître la vérité. Il est quand même capable, c'est Dieu après tout. Quel poids peut-on, par conséquent, accorder aux affirmations du christianisme? Réponse, un poids immense. Parce que ce sont les affirmations les mieux attestées du monde. Les affirmations du christianisme. Parce qu'elles procèdent de la Bible, de la parole de Dieu. Ne soyez pas intimidés, mes amis, par la vérité en tant que concept. Bien sûr que l'existence de la vérité implique l'existence de l'erreur. Bien sûr. Bien sûr que la véracité du message de la Bible implique la fausseté de toute religion ou philosophie qui contredit la Bible. Bien sûr, c'est logique, c'est normal. Les reproches d'arrogance, de présomption, d'intolérance adressés par notre culture au message chrétien, ces reproches-là sont en fait adressés aux apôtres comme Paul, ou Pierre, ou Jacques, ou Jean. Ils sont adressés aux prophètes. Ils sont adressés à Jésus et à Dieu lui-même, en fait. N'imaginez pas qu'en tant que témoin de Jésus-Christ, en tant que dépositaire de la vérité, si vous êtes dans l'Église, n'oubliez pas que nous devons tenir nos convictions. N'imaginez pas que nous devons tenir nos convictions en toute modestie, en toute discrétion, en nous excusant d'avoir la naïveté de penser que nous avons raison et que la Bible dit vrai. N'imaginez pas que c'est ainsi que nous devons être, que nous devons vivre. La Bible a raison. La Bible a raison. La personne et l'œuvre de Jésus sont parfaitement fiables. Le pardon de nos fautes que Jésus et Jésus seul a rendu possible est une réalité. C'est vrai, c'est accessible et ce n'est un secret pour personne. La vérité est notoire car elle a été révélée de façon évidente, compréhensible, objective, fiable et suffisante. Par conséquent, il vous incombe et il m'incombe à moi aussi, non seulement de croire hardiment à la vérité, mais aussi de la proclamer sans détour. Amen.